Bonsoir et bienvenue dans Onde Noire, l'émission polar, la plus rock de la bande FM.
Bonsoir Jacques.
Bonsoir Corinne.
Donc c'est la première émission de l'année. On va, voilà, on allait sacrifier, mais avec grand bonheur d'ailleurs, au fait de vous souhaiter une année pleine de lumière, plein de bonnes choses. Ben voilà, on trouve que c'est peut-être pas le jour. Et on n'a pas vraiment les mots, d'ailleurs, pour exprimer ce qu'on ressent vraiment. Ben, on va dire, puisqu'on essaye de vous faire aimer nos lectures et de partager nos coups de cœur, on va simplement dire qu'on vous souhaite de lire plein de bons romans cette année, de ces romans, en particulier les romans noirs, qui rendent moins con, et avec peut-être quelque chose de très naïf dans mes voeux, ces lectures qui, de temps en temps, par leur intelligence, par leur savoir, permettent que la culture lutte un peu contre la barbarie. Donc voilà, si on peut espérer ça cette année, en tant qu'animateur autour du roman noir, on va espérer ça. Et on est très content en ce début d'année, particulièrement aujourd'hui, de recevoir Oliver Gallmeister. Oliver Gallmeister, bonsoir.
Bonsoir Corinne.
C'est vraiment, comme je le disais, un grand plaisir de vous recevoir, et peut-être plus par rapport à tout ce qui s'est passé aujourd'hui, parce que on est tellement heureux quand on découvre un de vos nouveaux titres. Donc je rappelle que vous avez créé, il n'y a pas si longtemps que ça, d'ailleurs ça fait que quelques années, les éditions.
Bientôt 10 ans,
oh, ben on va fêter ça.
Oui, comme le temps passe.
Il n'y a pas tant de choses à fêter en ce moment, donc on va le fêter. Les éditions, donc Gallmeister, qui porte votre nom, jusqu'à présent, deux collections, La Noire, le Nature Writing, bien que depuis quelques années, je pensais, même depuis le début, que la frontière entre les deux était bien floue. Mais d'un côté comme de l'autre, c'était de grands, grands plaisirs de lecture. Et j'annonce tout de suite, mais peut-être aurons-nous le temps de l'évoquer, peut-être pas, une troisième collection va voir le jour en mars, intitulée Néo-Noir, tout un programme. Voilà, j'espère qu'on en reparlera justement début mars. Mais j'ai beaucoup de questions à vous poser sur un livre qui, je le dis, a ébloui les jours les plus courts de l'hiver. C'est un premier roman. Ça s'intitule « Les Arpenteurs ». C'est d'ailleurs la traduction, non pas littérale, ça fait un peu péjoratif, mais la traduction très fidèle du titre anglais. Et je voudrais d'ailleurs tout de suite, avant même de vous poser une question, saluer tout de suite le travail de traduction de Laura Derajinski, parce qu'il y a une telle émotion qui passe à travers les mots en français que c'est une très bonne traduction. C'est vraiment un très très beau travail.
Oui, oui. Il faut toujours saluer le travail des traducteurs, particulièrement sur un livre aussi difficile que celui-là, et c'est vrai que Laura a fait un travail absolument remarquable.
Alors, l'auteur, complètement inconnu, Kim Zupan, je ne sais pas comment on dit, Zupan.
Lui, il dit Zupan.
Zupan.
C'est un nom d'origine slovène.
Slovène. Il est originaire du Montana. Alors, tout amateur de littérature, et de littérature noire en particulier, connaît cet état des États-Unis. Et d'ailleurs, franchement, je trouve que, je sais pas, il a fait des ateliers d'écriture avec Jim Harrison, James Crumley et plein d'autres, tellement c'est brillant.
Oui, mais en fait, pas du tout. Non, c'est un autodidacte.
Voilà. Alors, justement, et ça vaut le coup de s'apesantir 2 minutes sur son itinéraire à ce nouvel écrivain de 61 ans.
Oui, alors, Kim Zupan, donc il a 61 ans maintenant. C'est un homme que j'ai eu la chance de rencontrer 2 fois déjà aux États-Unis, qui est absolument charmant, qui a eu une vie très dense, quasi caricaturale pour bon nombre d'écrivains américains. C'est-à-dire qu'en fait, avant d'écrire, il a vécu, voilà, tout simplement. Alors, il a été pêcheur professionnel, il a fait des rodéos, il a failli mourir d'ailleurs, il s'est cassé le dos lors d'un rodéo. Il a travaillé dans des ranchs. Il a fait de la charpenterie aussi.
Charpentier, voilà. Donc, oui.
Et maintenant, c'est ce dont il vit, c'est ça. Il enseigne la menuiserie, le travail du bois à l'université de Missoula. Et en fait, ce livre, The Plowman, donc Les Arpenteurs, c'est un livre sur lequel il travaille depuis plus de 30 ans. Moi, je sais que j'ai vu des extraits de ce livre dans une revue littéraire, dans des vieux numéros des années 80. Donc, Il a toujours eu cette passion du mot et du verbe, et il a effectivement mis, je crois, 30 ans à écrire ce livre, qui est en tout point remarquable.
Ah oui, puis passion aussi des êtres humains, dont il sait très bien parler. Donc, dans ce livre, on rencontre, c'est pas qu'on lit, c'est on rencontre deux hommes. L'un flic, il s'appelle Val Milimaki, et l'autre est un prisonnier que Val va garder nuit après nuit, qui s'appelle John Glaude. Et déjà, le face-à-face, c'est déjà un tour de force. C'est assez extraordinaire, pas la rencontre, mais comment ils vont s'apprivoiser l'un l'autre. Et surtout, le mal, le méchant, ce qu'on peut penser, quand on est un peu trop caricatural, être le mal qui va apprivoiser petit à petit ce qui pourrait être le bien.
Oui, tout à fait. Cette notion, en fait, ce qui est absolument extraordinaire dans ce livre-là, c'est que déjà, c'est un huis clos qui se passe dans une prison, puisque l'adjoint du shérif, donc Val Milimaki, est chargé de garder pendant la nuit, puisque c'est le dernier arrivé dans le bureau du shérif, il a le job le plus ingrat qui est de travailler la nuit. Donc pendant la nuit, il garde ce prisonnier qui est un tueur qu'on peut qualifier de sanguinaire. Et petit à petit, les deux hommes vont commencer à discuter et apprendre à se connaître. Mais effectivement, c'est un huis clos qui se passe dans une prison, et en réalité, on est tout le temps dehors. Parce que chacun va se raconter ils vont se raconter leur enfance, qui était dans les grands espaces, dans la ferme de leurs parents, le travail passé dans les champs, tout ce qu'on peut imaginer du Montana, ils vont le raconter. Mais en fait, on est dans leur tête, on est dans leur dialogue, dans leur relation qui est absolument fascinante, parce que effectivement, John Glaude, c'est quelque chose dont je commence à prendre conscience un an et demi après avoir lu le livre pour la première fois. C'est en fait, on peut pas. Je sais pas s'il est vraiment monstrueux. C'est un assassin.
C'est intéressant. Oui. J'ai exactement la même phrase en disant je ne sais pas exactement s'il représente le mal. Et c'est toute la beauté du livre.
En réalité, c'est en ça que ce livre est très américain et à mon avis qui correspond vraiment à ce qui moi m'intéresse dans le natural writing, cette littérature des grands espaces. C'est qu'en fait, John Glaude, il est même si on le voit au début du livre découper un cadavre, lui arracher les dents pour qu'il soit méconnaissable, etc. Il n'est pas d'affect là-dedans. Et il fait ce pourquoi il est programmé. Mais finalement, il est dangereux, mais je ne suis pas sûr que ça soit un monstre. Il n'y a aucun sadisme dans ses actes. Et il est dangereux finalement comme un ours, comme un grizzly, peut être dangereux pour un promeneur. L'ours et le loup, ils ne sont pas méchants, ils sont juste programmés pour être des prédateurs. Et lui, c'est une sorte de super prédateur.
En fait, il est simplement, et comme vous venez de dire, c'est effectivement ce qu'il y a de très très intéressant dans les romans, entre guillemets, nature writing, qu'on appelle aussi, les romans des grands espaces. La traduction française n'est jamais très satisfaisante. C'est que ça nous permet de découvrir l'Amérique profonde, ça nous permet de découvrir les laissés pour compte du système, les miséreux, et en gros ceux justement qui raclent la terre, qui arpentent cette terre aride. Et en fait, John Glaude, c'est que le produit d'un système et d'une société.
Oui, et puis, tout à fait. En fait, ces deux hommes, mais l'un comme l'autre, en fait. C'est ça qui est intéressant, c'est que l'adjoint du shérif et le criminel sont finalement les revers d'une même médaille. C'est finalement, ils sont tous les deux marqués par le milieu dans lequel ils vivent, mais quand je parle de milieu, je parle de l'écosystème. Oui. Ils sont marqués par ces paysages austères, arides, ces grands espaces qui provoquent des sentiments de solitude. Ils errent un peu comme des âmes en peine, en fait. Il y a une dimension très religieuse dans le livre, à mon sens.
Oui, c'est très mystique.
Ils errent comme des âmes en peine, et chacun fait comme il peut, en fait, pour survivre dans un environnement hostile. Voilà, âpre, magnifique, mais somme toute assez difficile à supporter.
Pour illustrer vos propos, juste deux, trois lignes. Le terrain était pauvre et sablonneux. L'herbe poussait de façon sporadique sur les versants, lui évoquant les poils d'un cochon. On y trouvait des yuccas et des figuiers de Barbarie, et son oreille percevait comme une faible voix le sifflement de la terre sèche soufflée au bord de la crête. Voilà, on sent déjà l'aridité, quelques lignes, et c'est, on sent aussi la pauvreté, la misère. Et ce qui est impressionnant, autre paradoxe, entre autres le huis clos et ses grands espaces, autre paradoxe, la noirceur absolue du prologue, et tout de suite le lecteur est ébloui par la lumière qu'il y a dans le style de l'écrivain.
Exactement, parce qu'en fait, le prologue, je pense qu'on peut le dire sans
Ah oui, on ne déflore rien.
C'est Val, qui a 13 ans, qui est un jeune garçon, qui rentre de l'école et qui trouve sa mère qui s'est pendue, voilà, qui s'est suicidée. Le prologue fait 2 pages. Et en fait, ce prologue va éclairer toute la conduite de Val durant le livre. C'est-à-dire que lui va n'avoir de cesse que de réparer, en fait. Il n'a pas réussi à sauver sa mère, il aura cette culpabilité. Et en fait, toute sa vie, en tant qu'adjoint du shérif, il cherche à s'occuper des autres. C'est un homme profondément bon.
Qui cherche sa rédemption.
Oui, mais pas sa rédemption. C'est-à-dire qu'il cherche à s'occuper des autres et aussi à sauver les gens. Et il y arrive. Pas souvent. Mais il cherche à faire le bien. C'est quasiment un personnage christique.
C'est ce que j'allais dire. C'est très écrit religieux, ça. Il y a beaucoup de...
Il y a une dimension religieuse très forte dans ce livre. Oui. Qui n'est jamais présenté comme tel. Il n'y a jamais de discours. Comme souvent
c'est ça qui est très fort.
Un maquin, tout est suggéré. Mais je suis... Je n'ai pas posé la question à Kim Zupan, mais je lui poserai la question lorsque je le reverrai, mais je pense qu'il y a une dimension religieuse très forte dans ce livre, oui.
Oh bah, ne serait-ce que de toute façon, si je ne m'abuse, il y a la citation de départ, tout au début, c'est une citation totalement... totalement religieuse, donc... Mais c'est aussi la force du récit, c'est-à-dire de ne jamais asséner idée, qu'elle soit politique, religieuse ou, je dirais, philosophique, mais de raconter tout simplement... avec beaucoup de philosophie et beaucoup de finesse, la vie des gens qu'il doit côtoyer jour après jour ou qu'il a dû côtoyer autour de sa vie.
Tout à fait, oui. Et puis, sans insister sur l'aspect religieux, voilà, moi, ce livre me fait penser à une cantate de Bach ou, vous savez, à ces tableaux de Latour ou de Rembrandt, c'est-à-dire tout en clair-obscur. Il y a une densité, il y a une richesse de la langue qui sont absolument éblouissantes, à mon sens, et qui donne vraiment l'impression d'être dans un tableau, voilà, un tableau de Rembrandt. C'est une très bonne analogie, j'y pense. Voilà.
Oui, il y a des scènes de nuit en particulier. Scène de prison, pour intituler ça, scène de prison de nuit avec bougie. Effectivement, on est complètement dans un de la tour.
La lumière est très très bien travaillée, parce que ce qui caractérise effectivement physiquement l'Ouest américain, c'est cette lumière, c'est le grand ciel, the big sky, le surnom de Montana. C'est vraiment quelque chose auquel on ne peut pas échapper quand on est là-bas. On est ébloui par la luminosité qui dégage de ce ciel-là, et en même temps, quand c'est la nuit, il fait vraiment noir. Voilà, parce qu'il n'y a pas la lumière des îles. Il n'y a pas de... Donc on est vraiment au fond du parc. C'est quelque chose qu'il a très bien capté, qui rend très bien dans son roman.
Et ce qui est intéressant aussi, c'est qu'il arrive aussi, un petit mauvais jeu de mots, mais à nous faire la lumière sur beaucoup de sentiments humains et de plonger à ce point dans l'âme, entre guillemets, de ces deux personnages... de manière très différente, puisque ce sont des personnages que, au départ, on pense que tout oppose, qui n'est pas vrai du tout, puisque finalement, ils ont quand même un petit peu, ils vont se lier, et puis ils vont peut-être quelque part vers un même but, malgré tout, d'arpenter leur vie et la vie des autres pour essayer de trouver une certaine salvation, justement. Et donc, c'est d'arriver à trouver cette lumière dans les coins les plus obscurs de leur esprit.
Oui, tout à fait, parce que je ne sais pas si les deux personnages ont une conscience aiguë de ce qu'ils cherchent à faire. Moi, j'ai le sentiment qu'ils arpentent, en fait, la terre du Montana, ces paysages désolés, sans trop savoir pourquoi, en réalité. Je pense que leurs actions sont assez inconscientes. Moi, c'est ma lecture. J'ai le sentiment qu'ils cherchent quelque chose, mais ils ne savent pas quoi. Et ils avancent parce que voilà, ils sont faits pour avancer, et chacun dans son registre, le tueur, et puis Val qui passe la moitié de son temps, lorsqu'il n'est pas à surveiller John Gould, il passe son temps à chercher des personnes disparues. Et très souvent, bah, les personnes disparues qu'il retrouve sont des cadavres, puisqu'il les retrouve trop tard. Donc il arpente cette terre à la recherche de personnes à sauver, et voilà, il n'y arrive pas. Et Glaude arpente cette terre pour lui survivre, et en semant la destruction derrière lui. Donc il y a ce parallèle-là, mais je ne sais pas dans quelle mesure c'est conscient. Quoi. Moi, je pense que ça l'est pas.
Peut-être.
Ça n'est pas formalisé. Nous, en France, on aime bien intellectualiser les choses. Là, il y a une forme d'animalité qui se dégage, je crois, chez ces personnages.
Mais on repart dans le cerveau reptilien, on repart dans nos réflexes, dans nos habitudes de nos ancêtres mammaliens, on va dire un petit peu, et le fait qu'effectivement ils arpentent parce que quelque part, notre cerveau reptilien veut qu'on creuse un sillon. Et donc on arpente, comme vous avez dit, on sème, on voilà. Et quelque part, l'un et l'autre essayent, tentent de creuser un sillon en y arrivant pas. Et tous les autres sont complètement inconscients. Effectivement, on a l'impression d'un tableau où on ne voit que, et tous les autres sont très flous en arrière-plan, finalement, les autres personnages.
Exactement.
Du roman.
Oui, c'est pour ça que cette image de la tour est bonne, parce que c'est vraiment ça. On sait qu'il y a tous ces détails derrière le tableau, mais nous, on voit que c'est éclairé par la bougie.
Alors, les arpenteurs, c'est un mot qui m'a vraiment... au départ, je ne comprenais pas trop, je dois le dire, le titre. Et puis, petit à petit, au fur et à mesure... Alors, pareil, fantasme de lecteur. Mais il y a aussi un peu une métaphore. J'ai l'impression qu'avec tout ce vécu, Kim Zupan nous donne aussi une métaphore de la littérature en général. C'est-à-dire que, comme ces deux personnages qui vont avancer pas à pas, il y a un peu la métaphore de l'écrivain qui arpente, mesure, avance pas à pas dans les méandres de l'esprit humain, finalement.
Je pense que pour Kim Zupan, c'est très vrai. C'est-à-dire que lui, il a travaillé comme ça. C'est un livre qu'il a mis 30 ans à écrire. Donc, c'est un livre qui est très écrit. Ses phrases sont extrêmement élaborées. Il a trouvé une véritable musique que la traductrice d'ailleurs a superbement rendu. Il a réussi, à mon avis, moi ce que je trouve somptueux dans ce livre-là, à mettre en musique des paysages. Mais vraiment, quand je parle de musique,
il y a un lyrisme.
Il y a du vrai lyrisme. Moi, c'est ce que j'aime dans cette littérature-là. On est vraiment, on en a plein les yeux et on se croirait dans un film. Enfin, c'est à mon avis, voilà, une écriture très forte. Et effectivement, ces personnages qui arpentent la terre, ben voilà, ça me fait penser aussi, vous savez, à au western de Sergio Leone, une fois dans l'Ouest, où on voit ces grands...
Il y a les westerns grands... crépusculaires. Voilà. C'est un livre très crépusculaire, d'ailleurs.
Il y a cette ambiance-là, voilà, dans Impitoyable, par exemple, voilà, de Clint Eastwood. On retrouve ça. Et effectivement, c'est la quintessence de cet univers lyrique qu'on retrouve dans ce livre-là. Moi, je crois que effectivement c'est tout à fait ça. Et puis effectivement, alors la métaphore de l'écrivain, je pense qu'elle est au-delà de ça. Je pense que c'est une métaphore surtout de la condition humaine.
Alors par contre, je ne sais pas. Moi, j'ai été chercher l'étymologie du mot arpenter, arpenteur, et j'ai découvert que, et je trouve que ça va très très bien dans ce livre, que il y a très très longtemps, ça vient d'un mot gaélique qui veut dire extrémité, arête. Alors, c'est peut-être pas fait exprès, mais je trouve que ça convient particulièrement bien et à la fois à l'écrivain et à ce livre, parce qu'on a l'impression d'être toujours sur un fil, sur une arête très coupante. Les frontières entre le bien et le mal sont abolies, mais on est toujours sur un fil très très coupant.
Ben écoutez, j'ignorais le sens, enfin l'étymologie du mot arpenteur, mais effectivement c'est très intéressant. Alors c'est pas fait exprès, donc nous on a choisi le titre les arpenteurs parce que le titre, la traduction littérale, ça serait les laboureurs.
Ah d'accord, oui,
the plowman en anglais, ça veut dire vraiment les laboureurs. Mais en réalité, il y a une dimension aussi d'arpenter, c'est-à-dire d'errer ou de parcourir de manière détaillée et précise un territoire qui est contenu dans le terme pommel qu'on n'arrivait pas à rendre. Et du coup, on a tranché pour les arpenteurs plutôt que les laboureurs parce que ça mettait l'accent sur l'errance, qui, à mon avis, est un des thèmes majeurs du livre. Voilà.
Malheureusement, on va être obligé de conclure. On arrive à la fin de cette première partie d'émission. Liver, non, c'est très intéressant. Moi, je voulais simplement faire un très beau compliment à Kim Zupan, de ma part. Hein. C'est que quand j'ai lu ce livre, j'ai pensé très, très fort à l'écrivain que j'admire le plus aux États-Unis, qui est Jim Thompson. Je trouve que c'est un livre qui est très thompsonien.
Eh ben écoutez, je vais lui écrire tout à l'heure pour lui dire.
Eh ben voilà. Oliver, merci beaucoup. Et puis on se donne d'ores et déjà rendez-vous un des mercredis de mars pour parler de Néopolar. J'en ai déjà vraiment plein de petits trucs à dire. Voilà. Merci beaucoup, Oliver. Bonne soirée encore. Merci. Au revoir.
Au revoir.